Grégory Cayol, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Alors avec vous, Grégory Cayol, nous nous intéressons aux stratégies de réussite professionnelle et personnelle. Et nous avons déjà réalisé 3 émissions.
Oui, écoutez, je pense qu'on attaque une émission qui est relativement intéressante, puisque après avoir parlé de comment est-ce qu'on définit ses objectifs et de comment est-ce qu'on débloque les croyances qui nous empêchent d'essayer de les poursuivre, on arrive au moment intéressant où on planifie et où on met une stratégie en place pour aller les atteindre.
C'est vrai qu'on peut, déjà être inquiet hein, entre, pour identifier le chemin qui va nous mener entre cet objectif-là, personnel et professionnel, et sa réalisation. Ça peut être long, laborieux, en tout cas on peut être inquiet de tout cela. Mais justement, quels sont les premiers problèmes que vous identifiez, Grégory ?
Je pense qu'au début, le plus difficile, quand on n'est pas habitué à cet exercice, qui est celui de la planification ou de la mise en place d'une stratégie, c'est justement de savoir comment on comble cet écart entre notre position actuelle, entre l'existant, et entre l'endroit où on veut aller, c'est-à-dire l'objectif. Et il me semble qu'un des premiers points qu'on va devoir traiter, c'est justement celui-là, mettre en place toute une série d'actions qui vont nous mener jusqu'à notre objectif. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi une question d'état d'esprit. On a souvent tendance à se demander si on est capable d'atteindre son objectif ou si on va pouvoir l'atteindre ou si ça n'est pas présomptueux de viser cet objectif. Je sais que c'est une croyance ou une question pardon, que je me suis beaucoup posée et que j'ai entendu beaucoup de personnes se poser. Plus on a des objectifs gros et plus on est ambitieux, à chaque fois qu'on avance, on devient souvent de plus en plus ambitieux. Et au plus, on a tendance à se demander si on ne poursuit pas un objectif qui est trop gros pour nous et si on n'est pas dans le faux.
Alors, est-ce une erreur ?
De se demander si on est dans le faux ?
Oui.
Ça, c'est difficile de répondre à cette question parce que je me la pose encore. J'ai une croyance aujourd'hui qui viserait à répondre que c'est 100% une erreur, parce que c'est une question très intéressante d'ailleurs. Donc je vais parler de ce en quoi je crois sans savoir si c'est vrai. La croyance actuelle aujourd'hui, c'est que toute personne peut atteindre n'importe quel objectif, peu importe lequel, il suffit juste de se donner les moyens. Et justement, ça tombe bien parce que cette question arrive vraiment pile poil dans le thème. La seule chose dont on a besoin, c'est de cette stratégie en question qu'on va définir pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut se laisser du temps. Mais on expliquera peut-être ça un petit peu plus d'ici quelques secondes.
Alors, pour justement identifier cette stratégie, quelles sont les compétences que la personne concernée doit acquérir ?
Je pense que c'est propre à chaque personne, à chaque objectif. L'important, c'est surtout de mesurer un petit peu les compétences ou les besoins différents dont on va avoir besoin pour pouvoir passer de, encore une fois, l'existant, sa position actuelle, à l'atteinte de son objectif. Prenons un exemple concret. C'est un exemple que j'aime bien utiliser. Je veux être acheteur à l'international, par exemple, ou key account manager à l'international. Bon, là, on reste dans le domaine du travail, donc prenons-en un autre.
On peut commencer par le travail et ensuite aller voir dans la vie personnelle.
Allez, faisons ça, ça me va. Alors, pour le travail, admettons que je veuille être key account manager à l'international. Je n'ai jamais été key account manager. Je n'ai jamais vécu à l'international. Je n'ai jamais travaillé à l'international. Je n'ai jamais travaillé en parlant une autre langue. Et je n'ai jamais fait de camp de management.
Et pourtant, j'ai envie de travailler à l'international.
Et pourtant, j'ai très envie.
L'homme est complexe.
Mais c'est toute la beauté des objectifs.
Absolument.
Et on a tendance, alors pour le revenir sur la question SRL, on aurait tendance à se dire, c'est trop ambitieux pour moi, je ne peux pas, parce qu'on va justement voir cet écart entre là où je suis et là où je veux aller. On va se dire, l'écart est... Il est là, il est réel, et il est trop grand, je ne suis pas en mesure de. Et l'erreur, c'est qu'on a tendance à voir ça sur une unité de temps, enfin sur une mesure de temps courte. Donc on se dit à l'instant T, je ne peux pas. Ça n'est pas forcément vrai sur une plus large palette de temps. Donc là, ce qu'il faut faire pour cette personne, c'est juste de cocher toutes les cases et d'acquérir toutes les compétences qui manquaient. Alors on verra un petit peu comment on peut le faire d'ici peu. Et pour une personne qui aurait un objectif, disons, plus personnel, je vais prendre devenir chanteur ou chanteuse, ou devenir acteur ou actrice, parce que je sais que c'est le rêve de tous les enfants et on l'a tous eu à un moment donné, même si on l'a abandonné, parce qu'on est devenu des adultes responsables. Je pense que même ça, c'est faisable. Il suffit juste d'identifier ce dont on a besoin et juste d'aller le chercher. Alors, le plus simple pour faire ça, c'est de séquencer les besoins en partant de l'objectif final. Mon objectif final aujourd'hui, c'est de devenir actrice ou acteur ou chanteur ou chanteuse, mais je ne sais pas chanter ou je ne sais pas jouer, enfin, acte. Ça n'est pas un problème, c'est juste un besoin à combler, c'est juste une compétence en attente qui demande à être acquise. On peut aussi se dire que, alors c'est un problème auquel je suis confronté aussi, en étant né dans un petit village en périphérie de Montpellier, je sais que nous n'avons pas ici accès aux mêmes opportunités que les personnes qui sont nées dans des grandes villes telles que New York, Singapour, Tokyo, Londres ou autres. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je fais dans un premier temps pour passer d'ici à là-bas ? Et une fois que je serai là-bas, comment je fais pour passer de là-bas à l'étape d'après ? On sait qu'il faut par exemple parler anglais pour avoir accès à certaines opportunités. Pas nécessairement, mais ça aide. Et ça peut être un axe de progrès.
Donc voilà, identifier, comment dire, étape après étape.
Exactement.
Ce dont on a besoin. Alors, certes, une fois qu'on a identifié ces étapes, hein, est-ce qu'il n'y a pas quand même la question du risque ? On s'engage, et puis petit à petit, on va peut-être s'apercevoir que finalement, c'est une entreprise risquée. Comment est-ce qu'on fait pour estimer cela ?
Estimer, c'est difficile. Je dirais que c'est une question de feeling et de... C'est personnel, tout le monde n'a pas forcément la même capacité à jauger le risque. Il faut arriver à gérer son stress pour arriver à prendre du recul, à garder un peu de distance émotionnelle et arriver à être objectif, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Donc, je dirais, si vous sentez que vous êtes en mesure d'accomplir tout ça, vous pouvez gérer votre risque tout seul. Si vous sentez que vous manquez d'objectivité et de recul, je pense que c'est important d'échanger avec des personnes de notre environnement proche, hein, qui ont la confiance, qui peuvent nous aider à monitorer tout ça. Au-delà de comment est-ce qu'on estime ce risque, comment est-ce qu'on le gère, je dirais que c'est toujours une question de temps. Il y a deux variables, progression et temps. Si on veut que la courbe temps progression augmente et progresse très vite, alors que la courbe temps n'avance pas autant, on va forcément augmenter le niveau de risque, puisqu'on va s'engager financièrement ou puisqu'on va s'engager d'une quelconque manière. Au plus on accepte de se laisser du temps, au plus le niveau de risque diminue. Puisque, par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise, vous voulez développer l'entreprise, une entreprise de 50 000 salariés en un an, vous allez être obligé de lever des millions, le risque est énorme. Vous voulez faire ça en 40 ans, vous allez avoir le temps de commencer avec un petit job à côté pour lancer petit à petit ce que vous voulez et grossir au fur et à mesure, toujours avec cette idée d'étape. Forcément, plus on va vite, plus on va loin et vite. Plus on va doucement, plus ça prend temps. Voilà, il faut juste estimer ce rapport.
Et puis le temps passe et avoir un projet de ce type-là, il ne faut pas l'avoir à 60 ans. Si on ne veut pas aller trop vite non plus. Je veux dire, le temps humain, il a ses limites.
C'est vrai. C'est vrai qu'au plus tôt on s'y prend, au mieux on se porte. Mais s'il y a un message que je peux faire passer aujourd'hui, c'est on a tous toujours l'impression qu'il est trop tard et que notre temps est passé. J'ai aujourd'hui 27 ans, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai l'impression que mon heure est passée, et à chaque année qui passe, je me rends compte qu'il m'en reste encore beaucoup et que j'avais tort de croire avant que mon année était passée. Peu importe l'âge qu'on a, il est toujours temps de réaliser nos rêves, ou au moins d'essayer.
Avant d'aborder notre troisième partie, vous nous avez choisi un morceau musical qui donne ce goût de la réussite. Hein. Beat It, Michael Jackson.
Je pense que ça se prête particulièrement au sujet du jour.
On écoute. Avec vous, Grégory Cayol, nous nous intéressons aux stratégies de réussite professionnelle et personnelle. Et nous avons déjà identifié les risques, les compétences à acquérir. Alors voilà, qu'est-ce que maintenant il nous faut des solutions, Grégory ? On ne peut pas nous laisser comme ça dans l'attente.
Je pense qu'en effet, c'est le plus important. Maintenant qu'on a pointé le problème, il faut trouver des solutions.
Mais c'est important de pointer le problème. C'est important de poser les choses.
Ouais, ça permet de prendre conscience déjà des problèmes potentiels à gérer, et ça permet aussi, je pense, à beaucoup d'entre nous de s'identifier aux problèmes, parce qu'on a souvent les mêmes problèmes, même si on ne le sait pas. En termes de solutions, je pense que on a trois grands points clés. Le premier étant donc justement l'acquisition de ces compétences. Le deuxième étant la communication de ses compétences, alors je reviendrai dessus, et surtout l'état d'esprit. Donc, première chose, encore une fois, entre son objectif et son point de départ actuel, il y a un gap, un écart à combler. On a deux approches. La première consiste à se demander si on est en mesure de le combler. La deuxième consiste à se demander comment est-ce qu'on peut le combler. Quand je me demande si je suis en mesure de le combler, je me positionne dans une posture d'échec potentiel, je crée une situation d'échec, c'est-à-dire tout écart va devenir un motif d'échec et une barrière. Quand je reprogramme mon approche et mon état d'esprit et que je me positionne en me demandant comment est-ce que je peux réussir, je ne vais plus chercher des problèmes ou des sources d'échecs potentiels, mais des solutions. Qu'est-ce que ça change concrètement? Au lieu de me dire je veux être chanteur ou acteur, ou pilote de rallye, ou que sais-je, ou multimillionnaire, et voir que présentement, ça n'est pas possible, je regarde tout ce qui me manque pour aller jusqu'à là-bas. Il y a peut-être une infinité d'étapes. Il peut y avoir une étape comme il peut y en avoir 10 000. Ça peut être des étapes simples comme extrêmement complexes. Elles peuvent demander un peu d'investissement, comme une masse énorme d'investissements financiers, énergétiques, temps, etc. Mais le problème n'est pas forcément là. Quand on reprogramme son état d'esprit, on perçoit aussi un autre changement qui s'opère, c'est qu'on ne pense plus à l'échec, mais on pense au progrès. Dès lors que j'ai construit ma roadmap, donc mon plan d'action, ma feuille de route, qui est censée m'amener de l'existant à mon objectif, et dès lors que j'ai toutes ces petites étapes qui s'affichent devant moi, et dès lors que je prends la décision d'avancer quotidiennement et régulièrement pour essayer de progresser dans la réalisation de ces étapes, il n'y a plus qu'une possibilité ou deux. Possibilité 1, accomplissement de l'objectif, donc réussite. Possibilité 2, et c'est là qu'un changement d'état d'esprit s'opère, progrès. Soit on réussit, soit on progresse. Il n'y a pas d'échec. Quand bien même on n'atteint pas l'objectif, on n'a pas échoué, on a progressé.
Je verrais volontiers une troisième solution. Jamais 203.
Alors la troisième, je dirais, une fois qu'on a séquencé tout ça, il faut aussi, si on est le seul acteur impliqué dans la prise de décision ou dans la réalisation de son objectif, par exemple, je sais pas, apprendre à danser la salsa au Brésil. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de planifier tout ça et de prendre éventuellement des cours de danse, d'économiser de l'argent, de se payer un billet, de partir au Brésil et de le faire. Et de voir tout ce qui nous manque, peut-être personnellement, en termes de développement, par exemple, j'ai pas assez confiance en moi pour aller prendre des cours de danse, c'est un premier problème à traiter. Cette approche, elle consiste à lister les problèmes pour les solutionner. Les problèmes, c'est des sources de progrès, non plus des causes d'échec. Mais si on n'est pas le seul acteur impliqué dans la prise de décision et dans la réalisation de ses objectifs, on va avoir probablement besoin de communiquer sur ces progrès. Alors, je m'explique. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas?
Oui, c'est clair, bien sûr.
Bon, j'avais un doute.
C'est clair, c'est clair. Moi, ce que je me dis, c'est que on peut avoir un objectif, comme vous dites, on le réussit, on y arrive, on est deuxième solution, on est juste en progrès, ce que vous dites, l'objectif n'est pas atteint. Et moi, j'en vois une troisième solution, c'est-à-dire que on atteint un autre objectif qu'on n'avait pas prévu
Oh,
et
ça
qui
c'est
pourtant nous
intéressant.
satisfait. Finalement, c'est pas, on ne devient pas forcément danseur de salsa, mais il y a un autre manque qu'on arrive à combler en essayant de danser la salsa.
Est-ce que vous parlez d'un objectif intermédiaire qui serait un niveau d'atteinte intermédiaire ou complètement
Non.
quelque chose d'autre?
L'objectif finalement de départ change et se réalise avec un autre. Ou en tout cas, la motivation du fait de danser est comblé par un troisième objectif, par un troisième, par la réalisation d'une troisième solution qui n'était pas prévue.
C'est très très vrai, je suis très d'accord.
J'en suis heureuse.
Je crois qu'en fait l'intérêt, c'est que, alors pour sortir du cadre, quand on est confronté à un problème, en général nos sources d'angoisse et de stress, c'est qu'on est confronté à un problème qu'on ne sait pas solutionner, dans lequel on se sclérose et dans lequel on s'enlise, et on a beau repasser le problème en boucle et en boucle, on ne trouve pas de solution. C'est extrêmement anxiogène. Pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que si on le schématise ou si on met une image dessus, à l'instant T, l'endroit où je me tiens debout, quand je regarde autour de moi, dans mon environnement proche, dans ce qui est autour de moi, je ne trouve aucune information qui puisse me permettre de solutionner mon problème. Tant que je reste immobile et que je reste à cet endroit, je suis confronté au même environnement. Ça veut dire que je n'aurai jamais l'information qui me manque. Le seul moyen de solutionner ça, c'est de me mettre en mouvement, de me mettre en marche, peu importe la direction. Puisqu'au moment où je change de place, je change aussi d'angle de vue et je change mon entourage et mon environnement. Et quand on fait ça, en général, on trouve toujours des informations, des solutions, des expériences qu'on n'avait pas prévues, et il se passe des choses très positives qu'on n'avait pas anticipées.
Mmh. D'où l'importance de l'état d'esprit aussi que vous annonciez précédemment. L'état d'esprit du mouvement, comme vous dites, de se déplacer, de voir ailleurs, de... Voilà. Vous sembliez dire que c'était quand même très important.
Tant qu'on reste enfermé dans ce qu'on sait, dans ce qu'on maîtrise, tant qu'on ne se challenge pas, on ne peut pas grandir, puisque par définition, pour pouvoir progresser, il faut grandir, et pour pouvoir grandir, il faut challenger ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise. Il faut apprendre à faire autrement, autre chose, plus vite, mieux, différemment. Et la seule chose qui permette de le faire, c'est je pense, le mouvement.
On s'arrête là pour aujourd'hui, Grégory.
Écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
Vous reviendrez. Merci encore, Grégory Cailhol, et à très bientôt.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.